7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines, ravis de finir cette semaine avec vous. Le vendredi, c'est éducation et voilà 30 ans qu'Erasmus bouscule l'Europe. Et on peut dire que c'est un succès. En 30 ans, c'est quand même 9 millions de personnes qui sont parties étudier à l'étranger et autant, j'imagine, qui le regrettent de ne pas l'avoir fait. Alors, qu'est-ce qui fait la réussite de ce programme d'échange européen? Quelles sont les motivations des étudiants? Quelles expériences vivent-ils? Que leur a apporté leur séjour à l'étranger? Et comment l'Union européenne est en train de soutenir un Erasmus Afrique? On en parle aujourd'hui avec nos invités. N'hésitez pas à nous contacter au 33 1 84 22 71 71, et toujours Facebook pour échanger entre vous. Donc trois invités aujourd'hui, trois invités et ES, hein, j'ai envie de dire, c'est trois femmes. Je commence avec vous, Isabelle Maradon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en éducation, en société également, et vous sortiez un livre, vous êtes co-auteur de « Ils ont fait Erasmus, 30 portraits, 30 ans de découverte et d'échange aux éditions de La Martinière ». Et alors franchement, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mon Dieu, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait Erasmus. Il y en a beaucoup, donc, qui regrettent.
C'est vrai que ça peut donner des regrets, mais on espère surtout que ça va donner des envies de partir pour ceux qui peuvent le faire, et on verra qu'il n'y a pas que quand on est jeune qu'on peut partir.
C'est vraiment une expérience, en tout cas, qui marque une vie. En face de vous, donc, c'est Muriel Dejaune, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes un des témoins, hein, du livre, vous êtes à la page 169. Et alors vous n'êtes pas étudiante à l'université, en fait c'est ouvert à beaucoup plus de personnes qu'on croit. Vous êtes prof d'anglais et de lettres au lycée professionnel Louis Blériot, c'est à Trappes. Et vous êtes partie en tant que prof d'abord, et vous emmenez aussi des jeunes en bac pro pour des stages à l'étranger, ça on ne le sait pas forcément.
Non, en effet, les professeurs peuvent partir également, mais les élèves de bac pro tout à fait également.
Vous nous raconterez toute cette aventure, toute cette mobilisation, en tout cas toute l'énergie que vous soulevez pour faire partir ces jeunes chaque année. Et en direct de Bordeaux, nous sommes avec Laure Coudrello. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes la directrice de l'agence Erasmus, donc qui est basée à Bordeaux. Alors c'est 30 ans, hein, 30 ans ça se fête. Cet été d'ailleurs, vous allez mener pas mal d'événements.
Ah oui, bien sûr, 30 ans ça se fête, évidemment comme vous l'avez dit, c'est une histoire longue et réussie, pour tous ceux qui sont partis et tous ceux qui ont envie de dire qu'ils sont partis avec succès, que leur vie a changé grâce à Erasmus. Donc oui, nous allons capitaliser sur cet anniversaire.
Il y aura des bus par exemple, hein, j'ai vu. Alors, un Erabus, des Erasmus,
voilà,
Erasmus
Days. On est associé évidemment aux étudiants qui sont partis en Erasmus, et avec eux on a construit un parcours à travers toute la France qui, de la mi-septembre à la mi-octobre, fera une vingtaine d'escales à travers la France, à la fois dans des villes et puis dans des secteurs plus ruraux.
En tout cas, je ne sais pas s'il y a besoin de faire beaucoup de pubs pour Erasmus, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a plus de demandes que d'offres, que de possibilités. Vous restez avec nous, hein. Merci aux équipes de France Bleu, en tout cas, qui vous accueillent, leur coudrait Lotte. Et vos questions, vos témoignages donc, sur le programme Erasmus Plus aussi, comment il pourrait être transposé en Afrique. On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors les auditeurs qui laissent des messages aujourd'hui, comme Yannick de Kisangani, dit à quel point Erasmus est une excellente initiative et pour lui ce serait un modèle à prendre pour les pays africains. Ça pourrait aussi adoucir les risques d'immigration clandestine. Akini de Djougou au nord-ouest du Bénin dit qu'il y a longtemps qu'il attend ce moment, il nous remercie et il vous pose la question: comment et sur quelle base les universités recrutent-elles donc des étudiants étrangers? Y a-t-il des critères spécifiques à remplir? On vous répondra à Kini un peu plus tard. Il y a Diaby aussi de Bamako, on va terminer avec lui. L'Afrique ne connaît pas Erasmus et ce serait un bel exemple pour consolider l'intégration africaine universitaire. Il y a aussi Bernabé qui nous dit quelles sont les modalités d'inscription Erasmus pour un étudiant comme lui en première année de mathématiques au Tchad. Continuez de poser vos questions sur Facebook ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Vous demandez qui est Erasmus. J'ai regardé sur internet parce que je savais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris. Pour aller vite, je crois que c'est une sorte de voyageur hollandais vers 1500.
Ils ont essayé tout de suite de nous mettre très à l'aise.
Ils ont fait beaucoup de choses pour les Erasmus, à savoir essayer de nous trouver des appartements, des colocations, nous mettre en contact avec des étudiants turcs.
Rien que là, dans l'appartement, voir comment chacun fonctionne, comment on va manger, les spécialités de chaque pays. On apprend un mot dans chaque langue, c'est assez amusant.
Ça crée des liens directs, ça crée des liens, non pas d'état à état, mais de personne à personne. Un étudiant français qui vient ici pour un semestre, pour un an, va partir. Il est désormais quelqu'un qui connaît des Turcs.
Ça s'appelle Erasmus. C'est un bordel innommable.
Alors on reproche souvent à l'Europe d'être loin des citoyens, une sorte de nébuleuse à Bruxelles. Mais avec ce programme d'échange Erasmus, donc qui fête ses 30 ans cette année, on peut vraiment dire que c'est du concret. Vous les avez comptés, vos brebis, je dirais, il y a 9 millions donc, de personnes en 30 ans qui ont profité de ces programmes Erasmus. On peut dire que l'Europe prend tout son sens avec ses étudiants, leur coudrait l'eau.
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut bien voir dans ces 30 ans, c'est qu'on a beaucoup évolué. On est parti 11 pays, on est aujourd'hui 33 pays, on est 33 pays qui coopéreront. Les coopérations, c'est des coopérations qui se font entre établissements. C'est ça qui est important de dire. Et donc, que les étudiants ou les apprentis ou les jeunes qui ont envie de partir, ils se tournent vers leurs établissements de formation.
Oui, en remplant le principe de base, effectivement, c'est les étudiants qui veulent partir étudier à l'étranger. Donc, ils valide Erasmus. Et combien d'établissements en Europe aujourd'hui ont signé la charte?
Pour les universités, on va dire qu'il y en a très très peu qui sont en dehors du schéma au niveau européen. Après, on va un peu plus loin. Tous les établissements qui sont classifiés enseignement supérieur peuvent y participer. Et puis, il y a les CFA, et puis il y a les lycées professionnels, comme vous pourrez, j'imagine, avec vos invités, le décrire. Enfin, il y a vraiment aussi, on le dit pas, les professeurs, les enseignants, les formateurs, de la formation professionnelle, il y a évidemment aussi un certain nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent partir dans le cadre des échanges pour adultes, il faut le dire aussi.
Oui, donc la palette est très large, hein, même si on pense que c'est seulement les universitaires, en fait ça va beaucoup plus loin. Donc pour rester dans les chiffres, il y a 9 millions effectivement de personnes en 30 ans qui ont participé à Erasmus, mais il y a 1 million de bébés aussi, Isabelle Maradan. Alors on voit qu'il y a un impact sur plusieurs générations quand même, ça change aussi la face de l'Europe.
Alors 1 million de bébés, je crois que c'était, on le souligne d'ailleurs dans la partie pratique, c'était un peu une extrapolation. Il faudrait affiner cette histoire du million de bébés, mais en tout cas, il y a un certain nombre de bébés Erasmus. Effectivement, on en a croisé au cours de cette enquête. Je pense notamment à un des personnages qui est dans le livre, qui s'appelle Mathieu Saglio, qui est violoncelliste. Il est donc français, originaire de Lorraine, et il a rencontré la belle Béatrice espagnole, pour laquelle il a fait un Erasmus pour la rejoindre. Et puis aujourd'hui, ils sont parents de 3 enfants franco-espagnols. Donc effectivement, il y a un certain nombre de bébés Erasmus. Et du coup, de grands-parents Erasmus, qui se mettent à apprendre la langue de la belle-fille ou du beau-fils.
Oui, donc ça se décline sur plusieurs générations. Alors on va tout de suite prendre Arnold, qui nous appelle de Bruxelles. Bonjour Arnold.
Allô, bonjour.
Alors je ne sais bonjour pas si vous avez fait des bébés, vous, grâce à ces programmes Erasmus+.
Pas encore.
Alors racontez-nous, vous avez envie de témoigner?
Alors j'ai un parcours assez particulier dans le sens où en 2015 j'ai participé à un programme Erasmus+, pour commencer. C'est un programme bien distinct qui finance des stages au sein de l'Union Européenne pour les jeunes Européens. Alors j'ai fait un stage à Bruxelles de février à décembre, c'était financé par la Commission. Et par la suite je suis resté à Bruxelles pour faire un master qui s'est plutôt bien déroulé. Dans le cadre de mon master, j'ai eu la possibilité de faire un Erasmus à Paris cette fois, dans le sens où j'ai la possibilité d'aller d'octobre prochain jusqu'à janvier de l'année 2018 à Paris, au CELSA, pour faire une partie de mon master en journalisme dans une université française.
Donc ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que vous êtes franco-camerounais, en fait. C'est pour ça que vous pouvez profiter effectivement de ce programme Erasmus+, aujourd'hui. Et donc vous êtes tout excité à l'idée de partir à Paris ou pas?
Bien sûr, c'est un vieux rêve, dans le sens où le CELSA c'est quand même une très grande école. C'est aussi l'un des points positifs d'Erasmus, dans le sens où on peut accéder à de très grandes universités, bien que ce soit pour un mois ou pour une année, mais cela reste une très belle opportunité. Et découvrir aussi un pays étranger ou alors une ville étrangère ou une université tout simplement étrangère, c'est toujours une belle opportunité. Moi, ce fut le cas quand je suis arrivé à Bruxelles. J'ai trouvé cela fascinant de pouvoir vivre dans une ville internationale où j'avais accès à tellement de cultures différentes. La Belgique étant un pays particulier de par ses 3 langues, français, néerlandais et l'allemand.
Mais Arnold, vous voulez pointer aussi les insuffisances d'Erasmus, racontez-nous.
Oui, c'est bien le cas. Je parle surtout des bourses qui ne sont pas assez élevées. Moi, j'ai pu comparer dans le sens où j'ai fait mon Erasmus+, où je recevais environ 800 euros par mois. Je ne sais pas combien cela fera en France CFA pour ceux qui sont en Afrique. Mais c'est une somme assez consistante qui permet quand même de vivre dans une ville capitale européenne comme Bruxelles. Mais quand j'ai inscrit à mon programme Erasmus pour aller à Paris, je reçois environ ces 350 euros par mois qui me sont promis par l'université, ce qui n'est vraiment pas du tout un montant que l'on pourrait considérer d'idéal pour une personne qui veut vivre à Paris. C'est vraiment plus ou moins ridicule, mais ça reste une belle aide. Je pense que le montant devrait être réajusté par rapport à la réalité des étudiants.
Eh ben, on va poser la question à Laure Coudrello, alors la directrice de l'agence Erasmus. Merci beaucoup Arnold pour votre témoignage. Alors les bourses sont un peu chiches, on va dire.
Oui, alors les bourses Erasmus, elles sont normées pour toute l'Europe. Mais généralement, un étudiant, quand il prépare son budget pour partir en Erasmus, il essaye de solliciter des bourses complémentaires. Ces bourses complémentaires peuvent être de niveau national, quand l'étudiant, par exemple, bénéficie et boursier. Elles peuvent être aussi complémentées, ça se fait largement, par les régions. Et puis, certains établissements donnent des bourses pour soutenir des gens qui ont des besoins de financement particuliers.
Donc, il faut aller frapper à d'autres portes.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas considérer, il a raison tout à fait de dire que la bourse est insuffisante, mais à la fois on travaille sur l'extension du programme et on est dans des budgets qui sont des budgets qui ont été très augmentés hein, entre la première, le programme précédent et ce nouveau programme qui a démarré en 2014. L'Europe, les trois institutions ont accepté 40% d'augmentation.
Ça fait un volume de combien, leur coût
ben on a quand même, on dispose de 17 milliards, en gros, pour les 7 ans. Donc c'est quand même important. C'est pas considérable si c'est ramené au budget de l'Union elle-même. On est à peine à 1%, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça n'était. Et puis, il faut aussi que l'étudiant se mette, ou l'apprenti, ou le jeune, se mette aussi dans des dispositions d'esprit où on construit sa bourse et on essaye de la compléter.
Alors vous êtes un peu victime de votre succès, on peut peut-être dire ça, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres en plus.
Ah oui, mais ça c'est la compétition.
C'est la compétition effectivement pour s'inscrire dans ces universités qui ont signé la charte. Pour ces 30 ans, Isabelle Maradan, donc vous, dans votre livre, vous avez choisi 30 portraits, ils ont fait Erasmus aux éditions de La Martinière. Comment vous les avez sélectionnés? Comment vous les avez choisis?
Alors déjà, l'idée était de démontrer et de montrer un peu l'ampleur du programme, on vient de le dire, avec des publics très différents, puisque le livre s'appelle « Ils ont fait Erasmus », mais il pourrait s'appeler « Ils ont fait Erasmus Plus », en fait, puisqu'on parle bien du programme Erasmus Plus, qui regroupe l'ensemble des programmes de mobilité qui s'appelaient Leonardo da Vinci, Grundtvig, etc., et qui sont regroupés aujourd'hui là-dedans. Donc on trouve aussi bien des jeunes collégiens, des jeunes lycéens, des enseignants, comme Muriel de Jaune qui est ici avec nous, des enseignants du supérieur aussi, qui font des mobilités pour aller observer comment se passent les systèmes éducatifs, que des demandeurs d'emploi, comme disait tout à l'heure Laure Coudrello. Et j'oublie les acteurs de jeunesse, puisqu'on peut aussi partir en Erasmus hors temps scolaire. Donc l'idée était de vraiment balayer tous les profils et de répartir en fonction aussi de l'importance qu'avaient ces profils. Donc il y a évidemment plus d'étudiants, puisque ça reste quand même la majorité des Erasmus+. Mais il y a aussi tous ces profils qui sont décrits dans le livre.
Et qu'est-ce qui vous a surpris vraiment tout au long de votre enquête ?
Alors moi, ce qui m'a surprise, c'était justement cette découverte dont je viens de parler, de l'ensemble des profils. Je ne savais pas, pourtant j'ai été enseignante, j'ai travaillé dans l'éducation populaire, et je n'imaginais pas qu'on pouvait partir en tant qu'enseignant, je n'en avais pas entendu parler. Dans l'éducation populaire, c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion non plus d'être confrontée à cette idée qu'on pouvait faire des mobilités pour travailler des questions autour de la jeunesse au niveau européen. Donc c'est vraiment ça qui m'a surprise. Et puis après, évidemment, les histoires de chacun m'ont énormément surprise. Parce que on en parlera sans doute, mais c'est vrai que c'est une sacrée aventure.
Alors Laure De Jaune, vous avez entendu parler de ce programme Erasmus+, puisque vous êtes professeur d'anglais et de lettres, et que vous êtes dans le livre, c'est la page 169, enseignante à Trappes. Donc là, on est dans une banlieue de Paris, pas facile. Et alors, vous avez commencé progressivement, vous avez commencé avec quel programme, vous ?
Alors moi, j'ai commencé avec le programme eTwinning il y a une dizaine d'années. Alors, le programme eTwinning, ça fait partie maintenant du programme Erasmus+, et ça est une plateforme qui permet à des professeurs de s'inscrire et d'y rencontrer d'autres professeurs pour pouvoir faire des projets d'échange à distance.
D'accord, donc là pour l'instant c'est virtuel, on ne se voit pas.
Tout à fait, on ne se voit pas, on travaille ensemble. Mm-hmm. Et puis petit à petit, avec mes élèves, ils étaient beaucoup plus désireux de partir. Je me suis dit, il faut trouver quelque chose, il faut trouver du financement. Et puis je me suis penchée d'abord sur Leonardo, qui était l'ancien programme, et puis maintenant Erasmus+.
Et alors quand vous dites que c'est venu de vos élèves, c'était eux au départ qui avaient envie d'aller se frotter au monde extérieur, à l'Europe?
En effet, j'avais organisé avec une classe il y a une dizaine d'années un voyage en Angleterre où on avait été rencontrer des professionnels à Londres, en hygiène et environnement, et puis les élèves me disaient « Madame, ça serait bien de venir travailler ici ». Alors je me dis « s'ils sont prêts à faire ça, il faut trouver quelque chose ». Voilà.
Donc c'est eux qui vous ont inspiré. Et dans quel domaine ils sont,
Alors au début, ils étaient en hygiène et environnement, des élèves de bac pro professionnels. Et maintenant, la section a fermé, on se retrouve sur des élèves qui travaillent en maintenance industrielle, en système électronique et numérique, en électrotechnique. Et on innove à la rentrée, là, pour la prochaine année, avec des métiers de la sécurité.
Voilà. Et donc, chaque année, vous les emmenez et vous leur trouvez des stages sur place. C'est ça, le principe ?
C'est ça. Alors, c'est pas moi directement qui leur trouve des stages. On prend un prestataire. Alors, on a deux pays pour envoyer nos élèves. On les envoie au Royaume-Uni, à Torquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et à Chypre. Sur l'Angleterre, j'ai un prestataire qui me cherche les stages, qui cherche les familles, parce que les élèves sont hébergés en famille. Et sur Chypre, j'ai un collègue que j'ai rencontré grâce au projet eTwinning, qui joue le rôle de prestataire, qui me trouve des entreprises. Et puis, sur Chypre, les élèves logent en appartement. Donc, ils sont en totale autonomie.
Et alors, on parlait budget tout à l'heure. Comment vous faites alors pour réussir à les faire partir? Parce que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément de moyens.
Non. Alors, comment on fait? On demande la bourse Erasmus+. Alors, on est très chanceux parce qu'on a obtenu la charte. Donc, ça nous évite de remplir ces gros dossiers de financement chaque année. Et puis, on demande une participation aux familles de 50 euros par semaine. Et puis ensuite, le lycée complète ce qui manque.
Parce que pour eux, c'est une aventure de vie qui dure combien de temps alors ?
Nos élèves partent 5 semaines en totale autonomie.
Et vous êtes là aussi ?
Alors, on les accompagne pour le voyage, on les installe, on vérifie que les entreprises conviennent, on remplit les contrats, on visite les familles, on voit si tout va bien. Et puis ensuite, donc ça dure une petite semaine, et ensuite on retourne au lycée, sur place nos prestataires les surveillent, et ensuite on retourne à la fin des 5 semaines pour pouvoir faire l'évaluation avec les tuteurs de stage. Parce que les stages qu'ils font à l'étranger comptent pour leur cursus du lycéen, pour l'obtention du baccalauréat.
Et alors les jeunes qui partent, est-ce qu'ils sont, ils se débrouillent avec l'anglais ? Parce qu'ils sont en immersion dans l'entreprise quand même.
Totalement, oui. Alors, ils se débrouillent, ils sont bien obligés.
Vous qui les poussez avant de partir?
Alors, on fait une préparation culturelle. Nos élèves, dans l'accompagnement personnalisé, suivent pendant 2 heures un renforcement en anglais, un renforcement culturel. Et ensuite, sur place, ils ont des cours de conversation une fois par semaine. Et puis après, il faut se débrouiller avec les moyens du bord, les gestes, les téléphones portables avec les traductions automatiques. Et puis, ils se débrouillent, ils progressent.
Et chaque année, vous remettez ça?
Eh oui, chaque année, depuis 8 ans, là, on remet ça, oui.
Bravo en tout cas pour cette belle énergie. Vous restez avec nous, on va continuer dans 3 minutes après le flash. On aura aussi un ancien bénéficiaire d'Erasmus Mundus pour voir aussi comment ce programme fonctionne pour ceux qui sont hors de l'Union européenne, puisqu'on a beaucoup de questions sur Facebook. Continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook, nous sommes avec Isabelle Maradan qui publie Ils ont fait Erasmus aux éditions de La Martinière, Muriel De Jaune et Laure Coudray-Lotte qui est la directrice de l'agence Erasmus. Vous restez avec nous dans 3 minutes. On se retrouve après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à tous les voisins, les voisines qui nous rejoignent. Erasmus à 30 ans, où en est la mobilité des jeunes au sein de l'Union européenne? Pourquoi choisir ce programme de mobilité? Qu'apporte un séjour à l'étranger? Savez-vous que les profs, les apprentis, les chômeurs, les bénévoles sont aussi concernés? Du coup, on parle d'Erasmus+ aujourd'hui avec trois invités. Nous avons Isabelle Maradan, co-auteure de « Ils ont fait Erasmus » aux éditions de La Martinière. C'est 30 portraits, 30 ans de découverte et d'échange avec un guide pratique pour ceux qui se prépare à partir avec un Erasmus. D'ailleurs, j'ai noté que le livre est illustré de beaucoup de photos. C'est les photos donc des jeunes ou des moins jeunes qui sont partis. On voit quand même beaucoup de découvertes du pays, beaucoup de copains. On ne voit pas beaucoup de salles de cours, ni d'école, ni d'université. C'est normal, Isabelle Maradan?
Alors, je pense qu'il faut mettre ça sur à la fois le fait d'être très concentré en cours et qui empêche de prendre des photos. Quand on est en cours, on travaille, on prend pas de photos. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a aussi une part importante de société et de découverte de la culture, de l'autre, des paysages. Donc c'est peut-être plus ça qui attire l'attention des bénéficiaires et qui fait qu'ils vont sortir l'appareil ou maintenant le portable. Mais effectivement, toutes les photos qu'on a dans le livre, d'ailleurs, à part les photos d'illustration entre les différentes parties, sont des photos qui ont été données par les bénéficiaires eux-mêmes. Donc ça raconte vraiment leur histoire en images.
Et Laure Coudrello, vous êtes directrice de l'agence Erasmus, vous êtes à Bordeaux. Dans le programme Erasmus, donc aussi cette convivialité, cette rencontre et tout, ça fait forcément partie du programme. C'est pas qu'une histoire de scolaire.
Non, c'est les bénéfices d'Erasmus. Mmh. On a de l'argent public et donc on essaye de suivre les effets sur à la fois les établissements et les personnes. Et donc ce que vous avez beaucoup dit ce matin, c'est que le gain en autonomie des jeunes, leur perception de l'autre différente, le fait qu'ils pratiquent les langues étrangères, c'est ça le moteur de ce beau programme. On ne pourrait pas continuer à développer cette mobilité si on n'était pas aujourd'hui certain qu'il y a un réel bénéfice sur les personnes de cette vie à l'étranger derrière Erasmus.
Mais est-ce que vous l'avez quantifié par exemple? Est-ce que vous avez noté que le sentiment d'appartenance à l'Europe est plus fort grâce à ce programme?
Oui, on a quantifié ça à plusieurs reprises dans des études. On montre qu'il y a un effet appartenance à l'Europe et que cet effet finalement est très lié à la durée de la mobilité. Tous les jeunes qui partent, et dans le dernier BVA là, qu'on a sorti récemment, on montre bien que quand on est parti, qu'on est parti longtemps dans un autre pays, qu'on a vécu des expériences avec d'autres jeunes, parce que c'est ce que vous montrez aussi très bien dans le livre, il y a cette idée qu'on appartient à un espace européen, qu'on y a des valeurs communes, qu'on y partage des valeurs communes. Et ça, c'est aussi le deuxième élément fort de ce programme, c'est qu'il permet de développer ces valeurs communes et partagées. Oui. Et qu'il y a l'employabilité, bien sûr, celle qu'on a définie avec toutes ces compétences acquises pendant la mobilité, qui se déploient au moment de la recherche du premier emploi, souvent.
C'est un plus, effectivement, dans le CV, ça les booste.
C'est un booster parce que d'abord, il est lui-même autonome, donc il sait mieux se vendre aussi. Et puis, cette expérience à l'étranger, il a capitalisé sur ses propres compétences. Et donc, il entre mieux sur le marché du travail, il entre plus rapidement sur le marché du travail. Et quand il y a des périodes de chômage, elles sont raccourcies. Ça, les études qu'on a produites très récentes le confortent.
Et vous le constatez aussi, Muriel Dejaune, donc vous témoignez dans le livre en tant que professeur d'anglais et de français au lycée professionnel Louis Blériot donc de Trappes. Vous emmenez vos élèves de bac pro, donc chaque année pour un stage en Angleterre et à Chypre. Vous le notez ça aussi? Ils s'en sortent mieux en sortant avec leur bac pro?
C'est indéniable. Ouais. Ils viennent avec beaucoup plus d'autonomie, d'ouverture d'esprit et continuent tous en poursuite d'études. Au lieu d'arrêter et puis de rentrer directement dans la vie active, ils continuent tous. Et là, on en a maintenant qui sont en master donc, et qui ne rêvent que de repartir.
Voilà. Bah, effectivement, donc après on a ça dans le sang, quoi. C'est ça, on a ça dans la peau, et cette ouverture, cette découverte. On prend confiance aussi quand on est un élève pas forcément doué dans un lycée pro.
C'est sûr, il nous arrive en seconde, mais vraiment déchiré et puis dégoûté du système scolaire. Et puis en fait, avec cette expérience de mobilité à l'étranger, ils reviennent, mais complètement transformés, autonomes, souriants. C'est que du bonheur, quoi.
Vous avez noté cette transformation, Isabelle Maradan, auprès de vos témoins dans le livre. Ils ont fait Erasmus aux éditions de La Martinière.
Oui, vraiment, tous le disent et l'éprouvent. C'est-à-dire que c'est vraiment pour eux souvent une première occasion de quitter leur famille. Alors, quand ce sont des jeunes qui sont des collégiens ou des lycéens, c'est clairement souvent la première occasion. Ou alors, ils ont pu partir en colo. Et tous le disent et disent que effectivement, ils se sentent plus ouverts d'esprit, ils ont été obligés de sortir un peu de leur zone de confort, d'aller vers l'autre, de se frotter à l'autre, disent certains. Ils ont pris en assurance, en confiance. Enfin, on entend des choses comme ça, vraiment.
Il y a vraiment un avant et un après.
Il y a un avant et un après, je pense, pour tous les bénéficiaires, en tout cas, qu'on a interrogés, mais c'est quelque chose qui ressort très, très fortement. Il y a un avant et un après, parce que c'est une expérience singulière et souvent inédite dans le parcours d'un jeune. C'est-à-dire que là, si on parle vraiment des mobilités des plus jeunes, c'est partir quelques semaines, quelques mois, voire une année entière, loin de ses parents, se débrouiller. Alors ça va te faire cuire un œuf à s'obliger à aller rencontrer l'autre, à faire un petit effort de sociabilité, parce que même s'il y a énormément de choses mises en place, et surtout, je fais une petite parenthèse, avec Internet aujourd'hui, on peut rencontrer les gens qui vont être en mobilité dans la même ville que nous via des groupes Facebook mis en place par les ESN, donc les groupes, le nom m'échappe, bref, les Erasmus Student Network, voilà, ça vient de revenir, ESN, je ne savais plus décliner l'acronyme. Donc, vous pouvez trouver déjà sur Facebook des gens qui sont dans la ville dans laquelle vous allez aller avant de partir, et puis...
Oui, c'est vraiment pour faciliter l'intégration.
Ça facilite l'intégration,
quand on arrive,
la mise en relation. Ouais.
Où est-ce que, comment ils doivent se débrouiller pour dormir? Comment ça se passe une fois qu'on a la validation, qu'on est accueilli par l'université, par exemple, si on est au Danemark, en Espagne ou en Allemagne, comment ça se passe après une fois
Il faut effectivement trouver un logement. Donc là, il y a plusieurs options possibles, les cités universitaires, la colocation. On peut aussi habiter chez une personne âgée. Enfin bref, tous les types de logements étudiants qu'on peut trouver... de manière classique, on va les retrouver en Erasmus. Là, on a quelque chose qui ressort aussi, c'est que beaucoup nous ont dit, il vaut mieux commencer par aller en auberge de jeunesse. C'est un conseil, en tout cas, qui revient dans la bouche de plusieurs jeunes, en disant, on arrive avant la rentrée, donc avant de socialiser, et pour ne pas se retrouver tout seul dans une location, dans une cité U, et avoir un petit peu le blues à l'arrivée, parce que c'est un moment difficile, délicat du séjour, l'arrivée, hein, on est un peu perdu. Ça aussi, beaucoup nous l'ont dit. Donc, l'auberge de jeunesse, ça permet de ne pas se retrouver tout seul, de déjà rencontrer quelques personnes, et puis...
Elle en est perdue au niveau de la langue. Est-ce qu'il faut être bilingue, Laure Coudrello?
Non, on a rarement des bilingues qui partent en Erasmus. Le projet inclut le développement et la pratique de la langue du pays d'accueil. Donc ça, je veux dire, il n'y a pas de restriction là-dessus. Et je pense qu'on l'a bien montré en développant l'Erasmus, notamment des apprentis, des élèves de la formation professionnelle. C'est des jeunes qui souvent avaient des difficultés linguistiques. Quand ils sont partis, ils ont dû se débrouiller. Et quand ils reviennent, ils sont absolument convaincu que l'apprentissage d'une langue autre que la nôtre est primordial. Et je crois que c'est aussi un booster de l'apprentissage des langues que de partir en Erasmus. Et très souvent, les gens sont au retour... quasi bilingue.
Alors j'ai vu que les pays qui accueillent le plus d'Erasmus au sein de l'Union européenne, des 33 pays, c'est en gros l'Espagne, l'Allemagne et la France, si je crois bien. Donc c'est ces trois pays qui sont les plus demandés. Et ceux qui fournissent le plus de contingents, les Français sont assez demandeurs pour partir à l'étranger. J'ai envie de savoir comment les étudiants Erasmus notent les différents systèmes éducatifs en Europe. Qu'est-ce qu'il en ressort Alors, Isabelle Maradan,
on les a pas vraiment interrogés là-dessus. Moi, ce que j'ai pu noter, en tout cas pour ceux qui ont été dans certains pays comme la Finlande, ils ont été vraiment frappés par la qualité du système éducatif. D'autres ont été frappés aussi par les... Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi en Espagne, notamment les relations avec les enseignants, les relations enseignants-étudiants ou enseignants-élèves pour les plus jeunes, qui sont différentes de chez nous, un peu plus proches, disent-ils, enfin une relation relation peut-être plus de confiance, de, pour reprendre un mot cher à un certain nombre d'enseignants, de bienveillance à l'égard des élèves. Donc ça, on note des choses comme ça, mais c'est vraiment, ça n'a pas la valeur d'une étude sur la question. Mais peut-être que Muriel Dejaune, qui a eu l'occasion de voir certains
les systèmes
éducatifs.
En tant que professeur, effectivement, qu'est-ce que vous avez noté?
En allant observer nos collègues au Portugal et à Chypre, et bien en effet, les élèves sont beaucoup plus proches que nous avec les élèves, quoi. Nous, on a ce vouvoiement.
Il y a une plus grande écoute.
Voilà, Bon, de l'aide de nous en lycée pro, c'est un peu différent, surtout sur TRAP. On a beaucoup d'aide sur les jeunes. Il y a beaucoup moins d'heures de cours, ça c'est important.
C'est ce que j'ai lu dans un article, ouais. Les étudiants qui viennent, Erasmus, qui viennent en France, ils disent « Oh là là, mais il y a trop de cours, c'est trop long et il n'y a pas beaucoup de vie sociale sur les campus ». Ils se plaignent aussi de ça. Enfin, quand on arrive des pays nordiques ou même d'Espagne ou d'Allemagne, ils trouvent que c'est vraiment maigre en termes d'ambiance sur le campus.
Enfin, moi, le campus, je n'ai pas trop été sur le campus, j'ai surtout vu dans les lycées... étranger, quoi, voilà.
Alors on va continuer, on va d'abord écouter un disque et puis on ira au Maroc puisqu'on a rendez-vous avec un ancien Erasmus Mundus et on va voir comment ça a changé sa vie. Games of Locke de Parcells, le programme européen de mobilité Erasmus fête ses 30 ans et se développe aussi vers les pays hors de l'Union européenne. Alors on a beaucoup de messages qui nous arrivent sur Facebook de jeunes comme Barnabé par exemple qui nous demandent quelles sont les modalités d'inscription à Erasmus quand on est un étudiant au Tchad par exemple. Alors on va tout de suite, on a rendez-vous avec Abdelaziz El Guerroua. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en direct depuis Midelt, donc vous êtes au Maroc, hein, et vous êtes membre de l'association des étudiants et des anciens d'Erasmus Mundus. Alors oui, vous êtes un ancien, puisque vous avez fait un Erasmus, donc c'était il y a déjà 10 ans, et vous avez fait deux pays, la France et l'Espagne. C'était dans quel domaine ?
Oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai fait mon expérience Erasmus, ça a commencé en fait en 2006 en Espagne, où j'ai fait du développement local, rural, à l'Université Polytechnique de Madrid. Et après, j'ai fait ANEM2, SAT, donc c'est le système agraire tropicaux sur le développement agricole, à l'Institut des régions chaudes, CEPAGRO de Montpellier, c'est l'ancien CNIAC.
Et alors, comment vous aviez entendu parler de ce programme ?
Bon, c'était pour moi peut-être une question de chance qui a un peu basculé ma vie parce que dans les lieux où j'ai vécu à ce moment-là, donc il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulent sur l'Erasmus. C'était grâce à un programme européen pour lequel je travaillais à l'époque, j'étais déjà professionnel, et j'ai rencontré quelques chercheurs qui sont devenus des amis après, donc un chercheur français qui m'a parlé du programme.
Oui, parce que vous étiez déjà professionnel, vous, en fait.
Oui, oui, exactement. Parce que moi, j'ai eu ma licence en 99, ça veut dire 7 ans, 8 ans avant.
Vous aviez 32 ans et ça, oui. C'était une manière pour vous de renforcer vos études en partant en Europe.
Oui,
en
exactement.
Master. C'est ce qu'il faut expliquer. Oui. C'est avec Erasmus Mundus, ça concerne le master.
Oui, oui, exactement. Le master s'appelle Agris Mundus, en fait. C'est un master donc, sur 5 ou 6 pays où il y a plusieurs options, et dont l'option que j'ai choisie moi-même personnellement, où il y avait donc le développement local à Madrid et l'agriculture donc, à Montpellier.
Alors, vous avez pu comparer les deux pays entre l'Espagne et la France en termes d'études. Où est-ce que vous étiez le plus à l'aise?
Bon, je pense en fait que les deux pays, ils étaient très accueillants. Il n'y avait pas vraiment une grande différence, sauf donc au niveau de la diversité, parce qu'en Espagne, donc on était plus nombreux. On était à 45 nationalités, ce qui est une expérience très enrichissante en termes d'échange. Donc il y avait en fait les 4 continents. Donc à part l'Australie, donc il y avait des personnes qui sont venues de 4 continents. Mmh. C'est un échange continu entre les différentes personnes, donc les étudiants avec beaucoup d'expérience et en majorité des professionnels. Mmh. Et en France aussi, donc c'était très intéressant parce que donc, c'était un espace donc, plus ouvert. Donc, pour moi, en tant que francophone, c'était très intéressant. Mmh. Donc, surtout que j'avais beaucoup d'amis donc, avec lesquels j'ai travaillé, donc à l'IRT, au CNEARC et tout ça. Pour moi, c'était une nouvelle expérience. Mais aussi, donc, je dirais, en termes d'apprentissage, donc, il y avait plus d'apprendissage donc master donc en France.
Mais est-ce que ça a changé votre vie alors ce parcours Erasmus+, donc Erasmus Mundus entre la France et l'Espagne quand vous êtes rentré au Maroc après?
Oui, bon, je me suis rentré en fait immédiatement après, je veux dire 3 jours après l'obtention de mon diplôme, donc j'étais déjà expert agronome en Égypte pendant 1 an pour une boîte française. Donc c'était vraiment pour moi un basculement de toute ma vie professionnelle et de ma carrière. C'est un programme qui m'a permis de booster ma carrière et donc d'aller de l'avant. C'est une expérience incroyable pour moi.
Merci beaucoup Abdelaziz El Guerroua donc pour votre témoignage en direct depuis le Maroc. Merci beaucoup, effectivement très très encourageant, très très positif, on l'entend. Leur coudrait l'eau Erasmus Mundus, c'est quoi l'idée? C'est de créer vraiment des masters conjoints d'excellence dans différents domaines.
Oui, c'est les premiers Erasmus Mundus remontent à 2004 et c'est une idée de la Commission européenne et partagée par les États membres et le Parlement. Que d'essayer de voir si on ne pouvait pas construire au niveau européen ce qui existe par exemple aux États-Unis avec la bourse Fulbright. C'est un petit peu ça l'idée initiale.
Donc c'était derrière, l'idée de faire travailler en fait des universités européennes ensemble.
C'est ça le grand apport, c'est qu'on construit à plusieurs établissements européens un vrai parcours pour des étudiants, on va dire, qui sont d'exception. Et c'est ça que n'a peut-être pas dit votre interlocuteur, c'est qu'il n'a pas été pris automatiquement dans un master Erasmus Mundus. Et cet accompagnement est évidemment aussi très substantiel au niveau financier. Donc il n'y a pas énormément d'étudiants Erasmus Mundus, mais l'apport est très important. Et ce qu'on a constaté, on vient de faire une étude très récente à l'agence, c'est qu'il y a, grâce à Erasmus Mundus, la France est le premier pays d'accueil pour les étudiants Erasmus Mundus. La France est extrêmement impliquée dans toutes ces constructions de cursus communs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des changements importants, une modernisation des établissements qui accueillent ces étudiants Erasmus Mundus. Il y a une qualité d'accueil supérieure, il y a sans doute dans l'administration des changements aussi très substantiels parce qu'on a organisé ces mises en place d'Erasmus, ces diplômes conjoints ou ces diplômes mixtes. Donc, je pense que là, il y a un vrai, vrai moteur de modernisation.
Alors, c'est réservé encore à peu de gens, hein, vous l'avez dit. Je crois qu'il y a quoi, 60 bourses par an.
Il y a quand même 3900 étudiants sur la période 2009-2016. C'est pas négligeable non plus.
Alors, si vous voulez bien répondre à Akini, par exemple, de Djougou, qui pose cette question, il y a longtemps qu'il attendait ce moment. Il dit comment et sur quelle base les universités recrutent-elles des étudiants étrangers? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques à remplir?
Sur la mobilité simple Erasmus+, on va dire non. Il faut constituer un dossier, on passe par son université d'origine et puis c'est les contacts avec les universités européennes. Donc il faut construire son projet, c'est comme pour un étudiant européen, on va dire. Sur les Erasmus Mundus, c'est l'excellence, donc là il faut candidater à un Erasmus Mundus pour faire son master. Et là, c'est beaucoup plus sélectif.
Mais alors, par exemple, pour Bardamé, qui nous écrit de Abéché, il demande quelles sont les modalités d'inscription à Erasmus pour un étudiant comme lui, qui est en première année de maths au Tchad. Est-ce qu'il peut rentrer dans un programme ?
On va dire que globalement, première année, c'est assez rare qu'on parte en Erasmus. Hein, globalement, même si on compare nos systèmes éducatifs qui sont différents, les mobilités interviennent après avoir déjà un bon petit socle acquis dans sa propre université. Et la mobilité se fait souvent en licence, souvent en maîtrise.
Alors pour
Donc
terminer,
peut-être qu'il faut qu'il attende un tout petit peu encore. Et qu'il construise son projet.
Ouais. Alors pour terminer avec l'Erasmus Afrique, hein, puisqu'effectivement il y a beaucoup de questions qui disent que ça permettrait de consolider cette intégration africaine, où est-ce que l'Union européenne, comment vous agissez pour encourager vous, les mobilités au sein de l'Afrique ?
Alors, sur les mobiles, le projet de la Commission, c'est un projet d'arriver à faire comme on a fait en Europe, cette circulation des étudiants, ces contacts entre établissements au niveau de l'Afrique. Et l'idée, c'est d'appuyer les différents pays d'Afrique à la construction de ces programmes de circulation comme on a fait un peu nous avant. En précurseur. Voilà. Il y a donc aussi beaucoup d'appui à la mobilité des enseignants pour ce développement du projet panafricain.
Donc effectivement, un peu, vous jetez les bases hein, en ce moment, ça va se développer, ça va prendre
oui.
Petit peu de temps.
Pour l'instant, oui. Là, il faut le dire, hein, l'enveloppe pour les étudiants africains n'est pas très considérable. Donc ça, on retravaille aujourd'hui sur les perspectives du nouveau programme qui prendra la relève sur 2021 et 2028. Donc ça, je pense que c'est un élément important que de développer ces financements sur l'Afrique. On va dire que sur l'Afrique du Nord, il y a davantage de liens entre l'Europe et l'Afrique du Nord, c'est historique. Et là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Hein. Le fait que vous ayez choisi un étudiant du Maroc montre
c'est
que
c'est assez révélateur, effectivement,
oui,
des
tout
liens
à fait,
assez
tout à fait.
Alors Muriel De Jaune, qu'est-ce qui fait que vous êtes professeur, vous donnez beaucoup hein, pour ces stages avec vos étudiants en bac pro. Qu'est-ce qui fait que chaque année vous remettez ça alors que ça vous prend beaucoup beaucoup de temps et d'énergie?
Le bonheur de voir les étudiants revenir et puis être complètement transformés. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me pousse à faire ce travail. Mmh. Et puis également de rencontrer d'autres collègues à l'étranger, notamment par le réseau eTwinning. Là, on construit des projets ensemble, on travaille ensemble, on arrive à se voir à certaines conférences organisées par eTwinning. Et ensuite, ça fait un réseau pour pouvoir ensuite aller voir le job shadowing, enfin être dans les cours avec les collègues. Et ça, c'est vraiment fantastique, quoi. Cette relation avec les gens et le contact et découvrir l'autre.
Dans le livre, il est écrit que ça donne du sens aussi à votre travail.
Tout à fait, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai complètement changé mon enseignement maintenant. Je ne travaille plus qu'avec les projets eTwinning, donc tout passe par du travail de projet avec les collègues et ça a changé tout dans ma vie de prof.
Isabelle Maradan, est-ce que ça a changé beaucoup la vie de vos bénéficiaires, ceux que vous avez retenus dans le livre, hein, ils ont fait Erasmus. Est-ce que par exemple vous notez que ça leur a donné des ailes peut-être pour après aller travailler aussi à l'étranger?
Ben oui, on a effectivement beaucoup, beaucoup d'expatriés. Puisque Erasmus donne des ailes et donne envie de repartir. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on revient, il y a quand même un retour à la routine qui est un peu difficile. On peut avoir un blues au retour.
Donc, oui, j'ai vu
le blues du retour, ouais, n'est pas évident. On se prend un petit peu une claque. On était dans la découverte totale pendant des semaines, des mois, et là, on revient à la routine. Donc, pour certains, sortir de la routine, c'est se donner un autre projet et un autre projet d'expatriation. On parlait tout à l'heure d'Erasmus Mundus. On a dans le livre une jeune femme qui s'appelle Morgane du Sud qui témoigne, qui est aujourd'hui, qui travaille aujourd'hui à Amnesty International, qui est assistante du délégué général à Londres. Cette jeune femme a voyagé donc pendant 2 ans dans plusieurs pays, dans 4 pays différents. Elle dit très clairement que si elle n'avait pas vécu cet Erasmus Mundus, après un premier Erasmus classique en licence, elle n'aurait jamais décroché ce poste et jamais envisagé une carrière à l'international. Elle a acquis notamment l'anglais professionnel et puis le contact avec, comme on l'évoquait tout à l'heure, des étudiants du monde entier, puisque vraiment, il n'y avait pas de limite. On a aussi, pour ne pas être simplement dans ce qu'Erasmus peut avoir de plus élitiste, et c'est très bien qu'il l'ait aussi, la dimension de, par exemple, Douglas Roche, qui lui était compagnon du devoir en chaudronnerie, est parti avant de faire son bac professionnel chaudronnerie, dans ce que décrivait tout à l'heure Muriel Dejaune, pour faire un stage. Et lui, très clairement, a découvert une autre manière de travailler en Estonie, a découvert, comme le disait aussi Muriel, l'intérêt d'apprendre une langue étrangère. Et c'est ça qui donne du sens aux apprentissages. Tout à coup, on apprend l'anglais, ça devient réel.
Il y a même des chômeurs aussi qui peuvent partir
des
dans
chômeurs,
le cadre de Pôle emploi.
Oui. Clémence, alors on a Clémence Langeval dans le livre qui nous raconte aussi comment elle est partie en Irlande et ça a non seulement boosté son niveau en anglais, mais ça a ouvert le champ des possibles pour elle. Et elle envisage aussi, pourquoi pas, d'aller travailler en Irlande. Mmh. Mais il y a plein d'autres expatriés. On a aussi un expatrié célèbre, c'est Alex Vizorek, même s'il n'est pas...
Il
est allé de Bruxelles à Paris. Oui. Mais en tout cas, c'est au retour d'Erasmus qu'il s'est dit, il faut que j'aille faire ma carrière à Paris. Bruxelles, ça suffit.
Merci beaucoup Isabelle Maradan. Vous êtes co-auteur de « Ils ont fait Erasmus » donc aux éditions de La Martinière. Muriel Dejaune, professeur au lycée Louis Blériot à Trappes, et en direct depuis Bordeaux, Laure Coudray-Lot, directrice de l'agence Erasmus. Merci beaucoup pour avoir été avec nous en direct aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand et Hugo. Et lundi, eh bien, lundi prochain, Emmanuel Bastide revient avec le rendez-vous JPAG et le coach Didier Acquetté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci d'être avec nous sur RFI.